aussi en avant de moi ce matin, Monsieur Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry-Prescott et Russell. Monsieur Sarrazin, bonjour, bonjour.
Bon matin tout le monde.
Puis, comment vont les vacances? On sait, vous les députés, vous avez 4 mois de vacances hein, pendant l'été. Hein?
Je pense vraiment, là, c'est vraiment quand t'es à Queen's Park, les vacances.
Oui, je sais.
Quand on est ici, il y a beaucoup d'événements,
oui.
Beaucoup de gens, beaucoup de rencontres, puis ça n'arrête justement pas, là, c'est vraiment un été très occupé. Je dois être honnête, j'ai venu à bout de me prendre une semaine de vacances en juillet.
Oui.
Mais non, c'est le fun. Écoute, je pense que c'est la période la plus importante pour nous d'être là auprès de nos organismes, nos citoyens. Puis on a l'événement, tu sais, on a vu, là, on a la saison des foires.
Oui.
Il y en avait 3-4
d'ailleurs en fin de semaine.
Conscription, hein, donc c'était vraiment le fun. Puis,
dans la région à Riceville en fin de semaine aussi. Là, donc non, c'est ça, les foires, les événements, les festivals Western de Wendover, Hawkesbury avec ses événements, Rockland également. On a eu plein d'événements, des marchés. Non, non, non. Puis je te vois partout, là.
C'est vraiment impressionnant. Hein? Je regardais là, les foires agricoles. Là, ça fait 180 années que ça existe, consécutif. Tu sais, comme c'est incroyable. Là.
Et c'est encore pertinent.
C'est vraiment. Là, puis je regardais ça. Là, super bien organisé. Beaucoup de monde participe. Des belles événements. C'est comme félicitations. Tu sais, je regarde le nombre de bénévoles au fil des années qui participent à ça. Là, c'est incroyable. C'est vraiment. Tout le monde met la main à la pâte. Puis. Parce que c'est un événement comme on peut prendre Vinclic Hill, Russell Fair, Navin Fair, il y a beaucoup de gens là, beaucoup de bénévoles, puis le nombre de gens qu'il y a là,
c'est pratiquement que du bénévolat.
Exactement.
Donc c'est beaucoup de gens qui s'impliquent dans leur propre communauté pour perpétuer la tradition, parce que s'il n'y a personne qui s'en occupe, ben c'est bien plate, mais la tradition va pas mal se finir là. Là.
Puis la partie intéressante pour moi, c'est que le gouvernement provincial, à travers les fonds souvent de Ontario Trillium Foundation, puis autres expériences Ontario, tout ça, donne du financement pour ces événements-là. Donc, c'était le fun pour moi aussi d'aller là, puis pouvoir dire « Hey, notre gouvernement est pour ces genres d'activités-là », puis c'était bien reçu, là, c'était le fun.
Ben c'est sûr, là, parce que c'est ça souvent. Il y a la portion billet à l'entrée, ça c'est une chose. T'as la portion commanditaire, ça c'est une autre, mais après ça, ton manque à gagner est souvent comblé par des subventions, que ce soit du tourisme en Ontario ou des fois même pour certains événements patrimoine canadien. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, mais c'est un mélange de plusieurs choses qui font en sorte que ces événements-là soient capables de boucler un budget, là.
Quand on voit le nombre de personnes qui participent à ces événements-là, on se dit vraiment « Wow, on est en train de reprendre nos années de COVID ou ce qu'on a resté à la maison. » Parce que c'est incroyable de voir la participation plus que jamais.
Ben oui, non, c'est ça. Je pense
autant les gens qui vont comme visiter la foire que ceux qui participent. Tu sais, comme à Vinclic Hill, le derby, il y a combien de chars qui ont participé cette année?
C'était un record cette année, je pense. C'était à plus de 80 et on était à plusieurs milliers et milliers de personnes qui ont fait les activités en fin de semaine avec les Kills. Oui, oui, non. Puis, ça a un impact majeur.
Il y en a beaucoup, là, autant, c'est ça, d'un deux côtés.
Il n'y a pas à dire, tu sais, des vieilles autos, là, des minones rouillées, on en voit moins sur le chemin que déjà. Puis acheter une auto usagée aujourd'hui, ça vaut quand même. Tu sais, c'est pas évident, là, arriver et trouver une auto pour mettre là-dedans, je sais pas.
Ouais.
Moi, mais j'ai le goût de dire, on en fait une l'année prochaine, puis on envoie Mathieu.
Ouais.
Ah, ouais.
Si mon Volkswagen a de la misère, on le fera.
On le fera?
Sinon, on va prendre la convertible à Élise.
Je suis pas sûr que tu vas être en sécurité avec ma convertible.
Oui, hein, il n'y a pas grand toit là-dessus. Tu parlais du fait que tu as rencontré beaucoup de gens dans ces foires-là, évidemment, puis pas juste là, mais cet été, dans tous les événements que tu as participé. J'aurais une question très large, mais en même temps, ça va pouvoir te faire ton chemin. C'est quoi réception du monde en ce moment? Le monde te jase de quoi quand il te rencontre?
Bien, honnêtement, je pense que les inquiétudes des gens sont les mêmes que quand on était en élection en 2022. Donc, c'est le coût de la vie, on le sait. Tout coûte cher. Puis nous, tu sais, le gouvernement, on continue. On a réduit les taxes sur l'essence, les vignettes pour nos autos. Puis écoute, on continue à essayer de rendre ça plus abordable. C'est pas facile. Tout coûte cher. Tu rentres à la grosserie, puis tu caches pas le fond du panier. Puis ça a coûté 100 $. Puis mais écoute, je pense que qu'est-ce qu'on fait, c'est investir ben, on ne peut pas dire qu'on investit, c'est qu'on on crée les meilleures conditions possibles pour des entreprises de venir s'installer ici en Ontario puis créer des bons emplois qui sont bien rémunérés. Puis je pense qu'on fait un job incroyable. Tu sais, je regarde les à chaque semaine, j'entends notre ministre du Développement économique dire « Hey, telle entreprise s'en vient de tel pays s'installer au Canada. » Je pense que la stabilité du gouvernement de l'Ontario, puis aussi tu sais, de voir que il y a beaucoup d'immigration, puis les gens viennent ici pour s'installer, puis aussi notre force, c'est nos professionnels, tu sais, nos gens qui sont là justement pour juste travailler dans ces avoir ces emplois là tu sais, on regarde, on développe beaucoup sur le côté nucléaire, mais on a à guess qu'on a les professionnels, on a les meilleurs au Canada probablement qui travaillent là-dedans, donc on continue à créer les meilleures conditions possibles, puis heureusement que c'est pas le gouvernement qui crée des emplois, parce que c'est pas le gouvernement qui est le plus efficace quand ça vient, mais c'est de créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises viennent s'installer. Puis que les petites entreprises, souvent, on entend parler, une grosse entreprise vient s'installer, puis on se dit, ah, c'est beau, là, Honda, mais Honda, c'est une grosse entreprise, mais il y a souvent comme 4, 5 000 petits contracteurs. Tu sais,
L'usine, elle se montre pas.
Exactement. Il y a beaucoup de gens alentour de ça qui font partie de ces travaux-là. Donc, non. Je pense qu'on entend juste du bon. Non, on ne peut pas dire qu'on entend juste du bon, parce que c'est sûr que partout, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui n'est pas content. Mais moi, je me dis, on fait de notre mieux. Puis, je pense que ça regarde bien si on se compare à d'autres provinces.
Est-ce qu'on a dans la région, parce que oui, tu as raison, je les vois souvent passer, ces investissements-là. Je remarque quelque chose, par exemple, évidemment. Puis on comprend que c'est le poumon économique du Canada, pas juste de l'Ontario, mais du Canada, mais on va souvent voir ces annonces-là dans le GTA, dans le grand GTA, OK? On va inclure Barrie, on va inclure même Hamilton, tu sais, c'est rendu là. Mais dans le sud de l'Ontario, dans ces régions-là, nous, de notre côté, ici dans la région de l'Est, est-ce qu'on a droit à tous ces investissements-là aussi, ou est-ce que... Parce que souvent, ben, on va voir des énormes investissements du genre, je sais pas, Amazon sur la Boundary, ou Ford à Castleman, ou Walmart à Cornwall.
Exact.
Mais outre ça, est-ce qu'on tire notre épingle du jeu aussi dans la région de l'Est de ces investissements-là en Ontario?
Écoute, il faut dire que c'est tout le temps stratégique. Hein? Quand les entreprises viennent s'installer, mais là, tu as le terrain en tant que tel. Où est-ce qu'ils sont localisés? T'sais? Est-ce qu'ils sont près des États-Unis? Ils sont près de la 401? Ils sont près de la 417? Je pense qu'ici, on a la 417, on a la 138 qui se rend à la 401. On a beaucoup de potentiel, mais oui, j'avoue qu'il y a peut-être un peu moins d'investissements qui viennent ici dans l'Est par rapport à notre population puis la disponibilité de la main-d'œuvre, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a pas mal plus de gens dans la région de Toronto. Mais je dois dire qu'on vient de lancer, le ministère du Développement économique, on vient de lancer un portail où ce que toutes les municipalités vont aller sur le portail puis dire « Hey, moi, j'ai un terrain de 100 acres qui est prêt à bâtir commercial, industriel. » Donc ça va être vraiment important, parce que quand les entreprises vont venir à nous, au gouvernement de l'Ontario, on va dire « Ah, oh, regarde ça! » Un exemple, là, je dis un exemple, c'est pas de l'information qui
c'est pas de l'information confidentielle, prenez les notes, tout le monde.
Dire, si la municipalité de Nation a 50 acres, 100 acres, 500 acres de disponibles avec les services, bon là, les entreprises vont regarder ça et vont dire, hey, voici qu'est-ce qu'il y a de disponible en Ontario. Je pense que c'est un vraiment bel outil pour pouvoir travailler avec toutes les municipalités de l'Ontario. Mais c'est grand, l'Ontario, hein?
C'est sûr qu'une plateforme commune, ça peut pas nuire. Genre de Tinder de l'investissement.
Oui.
Réseau de rencontre de l'investissement. Non, mais pour de vrai, c'est sûr là, ouais, que c'est d'avoir une entreprise qui doit engager des consultants qui, eux, regardent des sites et des sites et des sites, puis les avis publics des municipalités. Tu sais, à un moment donné, on est combien de municipalités en Ontario?
444.
C'est ça. Là, à un moment donné, c'est...
Faut qu'ils trouvent.
Puis dans ce cas-ci, ben, c'est sûr que ça peut pas nuire, puis que ça va aider. Dans un instant, je veux parler de, justement, on va faire un peu de chemin là-dessus, de créer des conditions pour accueillir du monde, puis la croissance économique, puis dans l'annonce qui a été faite hier, puis également pour Castleman, OK? Je veux jaser de tout ça. Dans un instant, après Queen en musique, on est le 92.1 Go FM. Bon matin.
Le show du matin le plus imprévisible.
Ça part avec nous.
Jusqu'à 9h.
Ça part bien le matin.
We'll be right back.
On est le 92.1 Go FM en ce 22 août, 13 degrés, c'est jeudi. On est en compagnie pour la prochaine heure du député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, Stéphane Sarrazin. Monsieur Sarrazin, hier, grosse annonce qui a été faite du côté de Clarence Rockland, en compagnie évidemment du maire de Rockland, Monsieur Zant, et du maire de la Nation, Monsieur Briard, où on a annoncé du financement pour quelque chose qui semble peut-être un peu plate. On va dire les vraies affaires, là. Un gros tuyau d'eau, c'est plate un peu à annoncer, mais en même temps, ça peut faire une énorme différence sur le développement à long terme de ces deux municipalités-là, d'une quelconque façon. Explique-nous un peu l'annonce d'hier et en quoi ça peut changer le portrait de la région.
Absolument. L'annonce d'hier, premièrement, on parle de 18 millions. 18 millions, c'était 18 882 000 $. Ouf. Donc, 118 000 $ cours de 19 millions. Mais écoute, nous, ces investissements-là qu'on fait dans les infrastructures partout à travers la province, c'est vraiment pour atteindre notre but de bâtir plus de logements. On sait qu'il y a une pénurie de logements, puis on doit travailler avec nos municipalités qui sont les ceux qui développent le plus. Puis écoute, oui, dans le cas de Clarence Rockland puis de Nation, c'était pas dur à déterminer parce que c'est deux municipalités qui voient de la croissance résidentielle incroyable. Puis la façon pour nous de les aider, c'est pas en donnant de l'argent pour chaque maison qui est bâtie, parce que c'est pas eux qui bâtissent des maisons, c'est pas nous qui bâtissent des maisons, c'est les promoteurs, c'est les développeurs.
Ouais.
Mais c'est faire sûr d'avoir les infrastructures nécessaires pour que les projets aillent de l'avant. On le voit dans beaucoup de petites municipalités, sont saturés côté eau et goût, mais là, on voulait faire sûr qu'on continue à avoir une belle croissance, malgré le taux d'intérêt qui est plus haut, la vente des maisons
mais
qui est plus lente. Mais
ça, c'est quand même un contexte socio-économique, disons, potentiellement temporaire.
Ben,
en ce sens où les taux d'intérêt ne seront pas toujours...
Exact.
Ça va fluctuer avec le temps.
Exact. Donc, puis ça leur donne un peu de temps de s'organiser en tant que municipalité, parce que pour des municipalités comme Clarence Rockland et la Nation, tu sais, on regarde à Limoges, je ne sais pas si vous avez été vous promener dans les subdivisions à Limoges, c'est incroyable là, comment ça grossit vite. Ils sont encore en train de développer des terrains, mais c'est un beau problème, mais c'est quand même un problème parce que ça grossit vite. Puis ces municipalités-là ont pas toujours les ressources pour aller de l'avant à suivre ce trend-là. Là. Donc là, on est... Ça, c'est phase 1, le projet d'eau. Donc, par la suite, tu sais, hier, l'annonce qu'on a faite, ça semblait à dire c'est juste à aller à l'extrémité de la municipalité de Clarence Rockland, mais c'est évident qu'on parle de la possibilité de bâtir peut-être quelques mille maisons à Rockland et quelques mille maisons à Nation. Donc, puis c'est la preuve que les municipalités qui travaillent ensemble avec le gouvernement provincial, on a tout à gagner à travailler ensemble. T'sais. Souvent, à l'époque, les municipalités travaillaient en silo, puis « Ah, moi, je veux pas travailler avec eux autres parce que ça va s'en aller chez eux, la croissance résidentielle, moi, je vais perdre. » Mais là, c'est le bel exemple. Regarde, tout le monde, il y en a pour tout le monde, la croissance résidentielle.
Mais ça sort de partout, là, c'est
absolument.
Ça.
Puis moi, je dis toujours, quand tu passes, là... Quand tu arrives par en arrière de Rockland, là, sur le haut de la côte, puis tu vois toutes les maisons qui ont été bâties là dans le dernier 10 ans, tu te dis c'est incroyable. C'est vraiment beau de voir ça. Puis nous, ben, notre gouvernement, c'est ça qu'on peut faire. On peut aider aux infrastructures pour faire ça. Tu sais, c'était une belle année pour notre région. Parce que là, on parle d'infrastructures pour la croissance résidentielle, puis en même temps, on parle d'une école aussi. Tu sais, une école francophone publique à Rockland qui va venir. C'est beau emmener des gens, mais il faut leur offrir les services pour. Là,
ben, c'est tout un défi parce que c'est ça, c'est à tous les niveaux. Tu commences avec des services de base du genre électricité et aqueduc, égout. Puis ça va jusque dans les services, l'école, mais la santé aussi. Tu sais, la santé, puis c'est complexe, là.
Absolument. Puis on travaille encore sur d'autres projets. Tu sais, tu l'as mentionné à la mairesse de Castleman.
Ouais, mais c'est là où j'allais, en fait, parce que là, je veux avoir un peu ton point de vue et tout ça par rapport à ça. Parce qu'on sait que Castleman, elle aussi, souhaite bénéficier du réseau d'eau de Clarence Rockland. On veut régler une fois pour toutes les problèmes de manganèse, mais pour ce faire, on ne doit plus s'approvisionner dans la rivière Nation Sud. On doit s'approvisionner dans la rivière des Outaouais. C'est une vingtaine de kilomètres de réseau de conduite qu'on devra ériger pour se connecter au réseau de Rockland. Projet quand même assez coûteux. On parle de 101 millions pour une municipalité comme Castleman avec quelques milliers de résidents et pas beaucoup d'entreprises. Tu sais, c'est pas le plus gros des parcs industriels. C'est un peu inatteignable une somme comme ça. On est à la recherche de 75 millions en ce moment.
Puis c'est quand même une municipalité qui a des limites.
Oui, géographique, c'est ça.
C'est ça. Dire, on peut pas dire qu'il va se bâtir 10 000 maisons dans le prochain 20 ans
pour
à
payer,
Castleman,
ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les terrains pour. Puis tu sais, à fin de ligne, ils vont aller. Ils vont faire l'application parce qu'on a une autre phase là, de funding, de 400 millions
oui.
encore aux municipalités. Mais c'est pas facile parce qu'ils compétitionnent avec d'autres municipalités. Puis souvent, d'autres municipalités, que je regarde aussi une de nos municipalités qui va aussi appliquer sur ce genre de subvention-là, c'est Alexandria. Alexandria, je parlais justement, on a rencontré eux aussi, parce que tu sais, on parle de la ville de Castleman qui a rencontré des ministres récemment à l'AMO, mais à peu près toutes les municipalités avaient des délégations avec différents ministres. Puis puis je peux pas dire que c'était nouveau, là, parce que je parle souvent avec North Glengarry, avec Glengarry Nord. Puis eux, en plus d'avoir un projet qui est prêt à aller de l'avant, qui est l'expansion de leur lagune, mm-hmm. ils ont des contracteurs, des développeurs qui sont prêts à bâtir 2000 maisons. Puis qu'est-ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont environ 800 capacités de sièges d'école. Parce qu'ils ont beaucoup d'écoles qui ont de la place. Puis ça vient en ligne de compte. Parce que si le gouvernement... Hein, investi 40 millions dans une municipalité, puis 5 ans après, 3 ans après, est obligé d'investir 50 millions dans une école. Mais je pense que c'est stratégique de regarder tout ça puis dire, regarde, on va...
Parce qu'à Alexandria, en ce moment, dans ce coin-là, t'as un projet qui débute, là.
Exact.
Un projet qui, et je me rappelle plus du nombre exact, mais je me rappelle d'avoir fait la nouvelle, je pense, il y a un mois et demi, deux mois, où on était aux dernières étapes de cadastration de terrain et tout ça, puis qu'on était prêt à mettre l'appel dentaire. Là.
Puis eux, c'est la capacité des eaux, des égouts. Donc, eux sont prêts à aller de l'avant, ils ont toutes leurs études de fait. Donc, c'est juste à aller de l'avant à l'expansion du lagune qu'ils appellent.
Ouais.
Puis, c'est pas facile, hein, tu sais. Quand tu es dans le bureau du ministre des Infrastructures, tu regardes tous ces projets-là, tu as tant d'argent à donner. La dernière phase, là, où est-ce que Clarence Rocklin et Nation ont eu le 18,8 millions, mais on parle de 54 municipalités. 54 projets qui touchent 60 municipalités.
Oui.
Ça, c'était 970 millions, près d'un milliard. Donc,
est-ce que c'est réaliste pour la municipalité de Castleman? Puis je vais poser une question qui n'est pas facile, OK? Deux choses. Premièrement, les problèmes d'eau, aussi désagréables qu'ils sont, ne sont pas nécessairement un enjeu de sécurité publique. Si on regarde les recommandations du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, il n'y a pas un avis d'ébullition quand ça c'est émis. C'est juste, c'est pas beau, c'est pas le fun, ça sent pas bon, puis ça goûte pas bon, puis on prend des bouteilles en plastique d'eau à l'épicerie parce que c'est pas vraiment agréable. Mais c'est pas un enjeu de sécurité, c'est pas un enjeu de santé publique, là. De un, et de deux, le coût lié à ça par rapport au fait que la municipalité est bloquée dans son développement. Parce que c'est une municipalité, justement, petite en termes de géographie. Elle est entourée de la nation.
Quelque chose qu'on n'entend pas.
Mais est-ce que c'est un peu irréaliste pour Castleman de vouloir, du moins avec un seul palier de gouvernement, sans que le fédéral, peut-être, mais de demander un montant comme ça pour cet enjeu-là? Je pose une question qui n'est pas facile. Là.
Non, mais écoute, je pense que on devrait faire une chose à la fois. À Castleman, je pense qu'ils ont eu une subvention pour justement investir dans le plan d'eau pour éliminer la manganèse, là, pour éliminer l'eau brune. La mairesse se dit non, on veut tout de suite avoir, parce qu'il y a aussi l'inquiétude d'avoir la capacité d'eau, la rivière Nation, tu sais, c'est pas comme la rivière Outaouais, mais en même temps, je pense qu'on devrait faire une étape à la fois, si on peut régler le cas de l'eau brune, puis avoir, parce que c'est sûr que tu ouvres le robinet chez vous, puis tu te fais couler un verre d'eau brune,
c'est
pas très intéressant, puis ça te tente pas de boire ça. T'as beau dire que Dr. Paul a dit que c'était correct, mais ça me tente pas d'en boire pareil.
je te confirme.
Exactement.
Quand c'était, puis nous, la radio est située à Castleman, ses bureaux, donc on rouvre le robinet comme tout le monde ici. Et je comprends, là. C'est dégueulasse.
C'est ça. Donc, tu sais, s'ils sont capables de régler, parce que j'ai entendu à travers les branches qu'avec peut-être une subvention qu'ils ont eue d'un million de dollars du fédéral, ils seraient capables de régler les problèmes à l'usine d'eau. Donc, moi, je pense que c'est important d'aller de l'avant, régler ça. Après ça, à long terme, peut-être, tu sais, voir si... Parce que c'est sûr que c'est difficile, hein, aller chercher 70 millions pour dire on va bâtir combien de maisons. C'est pas évident. Je dirais pas... Moi, ma job, c'est de continuer à pousser là-dessus, mais en même temps, ceux qui ont les décisions en main à Toronto, c'est pas dur à faire un choix. Là. Si tu dis je vais investir 25 millions dans une municipalité qui peut éventuellement bâtir 5000 maisons ou je vais investir 70 millions dans un endroit où ils peuvent bâtir 1500 maisons, ben, je pense que... T'sais, notre priorité, oui, c'est de bâtir des logements. On s'est engagé avec notre plan ambitieux à créer des initiatives pour bâtir 1,5 million de logements. Donc, ça va être difficile, mais écoute, on continue à pousser. Il y a l'élément santé, mais en même temps, plusieurs autres municipalités regardent pour des projets d'infrastructure.
Ouais, non, c'est ça. Puis, on a une idée en tête du côté provincial en ce moment au niveau de bâtir des maisons. On accuse un certain retard, évidemment, selon les projections qu'on souhaitait. Donc, c'est ça. Là. Dans ce cas-ci, il est de toute évidence que c'est la stratégie adoptée en ce moment à Queen's Park. Là. C'est de pousser le plus possible ça pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Puis, il faut ce qu'il faut. Là.
Absolument. Puis, je pense qu'on voit, là, tu sais, il y a certaines municipalités qui avaient présenté des cibles de construction, puis ils ont dépassé leur cible. Ils parlaient dans le sud de l'Ontario.
Ouais.
Puis c'est vraiment, tu sais, on le voit, récemment, on parle de Clarence Rocklin, on parle de Limoges, mais on parle de Russell, Navin, Vars, c'est toutes des communautés qui sont en pleine expansion, tu sais, en brun. Russell, la municipalité de Russell, on l'entend moins parce que peut-être qu'il avait plané à l'avance, tu sais, les connexions d'eau, il y en a en masse.
Avec la ville d'Ottawa, hein?
C'est ça.
Dans mon souvenir, oui.
C'est peut-être moins problématique, mais encore là...
Russell, ils l'ont vu avant, mais en même temps, Russell a une explosion considérable, puis juste à penser à son parc industriel. On va aller en musique. Après ça, on va prendre une petite pause. Puis on revient avec le député tout de suite après. Je vous souhaite un bon jeudi. On est le 22 août aujourd'hui.
Dans l'Est ontarien.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Jusqu'à 9h.
Go FM!
Bon, 7h40, c'est jeudi aujourd'hui. Nous sommes le 22 août. Je vous souhaite un bon début de journée, l'Est ontarien. C'est spécial ce matin parce que... On a avec nous le député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, Stéphane Sarrazin. Élise, tu es toujours là. Moi, je m'appelle Mathieu Manning. Monsieur Sarrazin, toujours content quand vous venez nous jaser comme ça le matin, puis que tu mets les cartes sur la table, puis on prend le temps de jaser. Bonne petite jasette. D'ailleurs, oublions pas, mais tu as une autre jasette un matin, là, un peu plus tard. Chose que tu organises ici et là dans la région, ce matin, c'est où encore? À Cumberland. À quel endroit?
Là, je me rappelle pas de l'endroit exact à Cumberland, mais c'est bête, là, je dois regarder parce qu'on a plusieurs de ça, puis ça vient un peu mélangeant. Mais c'est vraiment une belle activité qu'on donne l'opportunité de rencontrer les gens. On essaie de le faire dans toutes les différentes régions. Puis, tu sais, moi, je dis toujours.
Échange Espresso, c'est au 2552 Old Montreal Road à Cumberland. Ça se passe de midi à 14h. Maple Hall.
Et voilà. Je ne sais pas pourquoi que ça ne m'est pas venu. Le Maple Hall, c'est juste où ce qu'ils font toutes les activités. Là, c'est pratiquement à l'intersection là, quand tu montes de la 17. Là.
Ouais.
Donc, non, absolument. Puis c'est toujours intéressant. C'est une belle opportunité pour les gens, tu sais, à place d'aller sur Facebook puis nous envoyer toutes sortes de questions. Parce que souvent, les gens vont aller sur mon Facebook Messenger ou sur Instagram en pensant que c'est moi qui gère le réseau
24 heures sur 24
de médias sociaux. Honnêtement, je vais pratiquement jamais sur Instagram, je vais sur LinkedIn, mais tu sais, comment que ça arrive, c'est que moi, je peux faire une publication sur Facebook, un exemple, parce que là, je suis dans le feu de l'action, puis j'ai des photos, puis je sais, mais la plupart du temps, c'est nos agents de communication, tu sais, on sont avec nous, on envoie les photos, puis on dit, hey, ça, c'est ça que je viens de faire, puis eux autres, ben ils ont le temps de faire un petit peu comment je te dirais ça, là, du fine-tuning en français, là.
Ben, de mettre ça en contexte comme il faut, là.
Puis là, de tout mettre ça.
Non, mais je comprends, c'est sûr qu'à un moment donné, si faut tu gères 42 boîtes de courriel, puis des téléphones, puis des textos, puis un Messenger, puis Instagram, puis TikTok, puis X, puis ça finit plus de finir à un moment donné.
Donc, les gens.
Tu vas passer 32 heures par jour à répondre à tes messages. Là.
Des questions sur Messenger, c'est pas toujours évident parce que souvent, c'est notre équipe de communication qui gère ça. Donc, mais c'est le fun parce que c'est une belle. Tu sais, toutes ces plateformes de médias, les médias sociaux, c'est la chose que j'entends le plus. Je vais à des événements, puis ah, M. Sarrazin, vous êtes actif dans la région, puis on vous félicite, puis tout ça. Puis honnêtement, je suis sûr qu'à l'époque, il y avait des députés qui étaient aussi actifs que moi, mais il n'y avait pas de médias sociaux pour montrer tout ça.
Oui, c'est sûr. Tu avais juste le petit guide que tu envoies dans
une fois par trois mois, une fois par six mois.
Ou le bouche-à-oreille, tu sais. Quelqu'un qui t'a vu qui a dit
alors. Puis je vois en plus sur ton Facebook, mais la section commentaires, elle est ouverte.
Oui, oui. Puis. C'est correct, c'est là pour ça.
Ben oui.
Et ces commentaires-là, des fois, c'est constructif. Puis, que je trouve comique, puis en même temps intéressant, c'est que des fois, on n'a même pas besoin de répondre. C'est d'autres gens qui répondent à d'autres gens. Hein?
Ouais,
on voit
ben
ça souvent
ça.
Sur les médias sociaux. Puis, c'est le fun. Ça part des belles discussions.
On va boucler la boucle sur le sujet de la construction domiciliaire puis du développement de nos municipalités parce que... Ben, je sais bien qu'on en a déjà beaucoup parlé là, aujourd'hui, mais c'est parce que c'est comme un peu votre pièce maîtresse en ce moment au niveau provincial. Vous avez dévoilé cette semaine, puis là, excuse-moi, les termes là, sont... c'est des termes bien précis, là, mais votre genre de plan stratégique pour les municipalités, pour des comtés unis... À dire, voilà ce que nous, on a comme priorité du gouvernement provincial et vous devrez vous baser là-dessus pour construire les vôtres. Là. C'est un peu ça, maintenant, que je résume?
Absolument. On l'appelle, souvent, les gens vont référer au PPS, qui est le Provincial Planning Statement, mais en français, c'est la Déclaration provinciale sur la planification. Puis justement, on vient de lancer, lors de la conférence des municipalités de l'Ontario, le plan, la déclaration, puis ça va prendre effet le 20 octobre. Puis ça, pour les gens qui, juste pour rendre ça plus facile, une explication vite faite, c'est, t'as ce plan-là. Donc, ce plan-là, c'est le guide pour qu'est-ce qu'on appelle le fameux plan officiel des comtés unis. Donc, le plan officiel des comtés unis, quelque chose qui est fait aux 5 ans par les maires qui sont assis à la table aux comtés unis. Puis là, ça relève du PPS. Donc, qu'est-ce que ça doit aller en ligne avec notre déclaration? Puis en même temps, tu as un troisième élément parce qu'on a des municipalités à 2/3. Tu as le règlement de zonage des municipalités que lui doit s'enligner avec le plan officiel. Le plan officiel doit s'enligner avec la déclaration provinciale. Donc, tout ça, ça devient compliqué. Ça devient vraiment mélangeant.
L'arbre est dans ses feuilles.
Exactement. Ouais. Donc, les gens souvent disent, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un terrain, je veux faire un lotissement. Donc là, ça doit rencontrer le règlement de zonage, que lui doit rencontrer le plan des comtés unis. Puis le plan des comtés unis doit rencontrer le plan de la province. C'est souvent un peu plus compliqué.
Mais en dévoilant ça, comme vous avez fait il y a 2 jours, l'objectif, c'est quoi? C'est que tout le monde révise ses propres politiques conformément à votre vision, en disant, là, je sais pas où vous en êtes dans vos politiques internes de développement puis tout ça, mais...
Ben c'est certain.
Réviser ça, là.
Pour nous, encore une fois, c'est notre plan pour développer, pour bâtir plus de logements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé beaucoup de red tape. Là, j'essaie toujours de me rappeler. Je me rappelle jamais comment est-ce qu'on appelle ça, du red tape en français.
En français? Y a-t-il de la paperasse?
D'habitude,
on dit de la paperasse.
Exactement.
Là.
Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est rendre ça plus facile pour les promoteurs puis les développeurs de bâtir, donc pour créer plus de logements. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, souvent les gens vont dire, « Ah oui, mais les développeurs, eux autres, ils font de l'argent. » Mais vous savez, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent attaché à des projets. Je regarde, puis je parlais de ça justement à un développeur hier. J'ai dit, tu peux t'imaginer une tour de condo de 50 étages à Toronto, que tu commences la construction, puis ça va être fini dans 5 ans. Tout cet argent-là là, qui s'en
que
va
tu
là.
Tu dois devancer.
Combien de milliards de dollars? Fait que ça, c'est pas tout. Tu sais, c'est des promoteurs qui soutiennent ça. Puis si on les aurait pas, eux autres, on n'aurait pas de développement résidentiel.
Ouais.
C'est dommage à dire.
Ben, en fait, Il y a ça, oui, mais le 5 ans que tu... Ben, tu peux faire de la prévente parfaite, là. Tu peux faire de la prévente d'unité. Toujours certains risques liés à ça, mais c'est parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres, là.
Faut pas oublier.
Il y a du monde
chose,
qui hein? doit être payé en terme de 30 à 90 jours. Mm-hmm. Puis ton projet, je sais pas moi, ton projet de parc de maison à 100 millions, par exemple, ben tu dois les devancer, ces fonds-là. Puis des fois, il faut que tu fasses ton leverage, puis il faut que tu empruntes de l'argent. Puis cet emprunt-là n'est pas fait à coup d'amour et d'eau fraîche. C'est du 5 à 10 % dans le leverage. On a déjà vu du 12 puis du 13. T'as de l'intérêt que tu payes. Mais c'est ça. Tu dois avoir du monde qui ont les reins solides quand que tu as des projets d'envergure, c'est sûr. Hein?
Puis tu sais, ces projets-là qu'on voit, là, tant que la dernière maison n'est pas construite, ben ils feront pas la dernière couche de pavé, là, d'asphalte. Puis là, tant que la dernière couche d'asphalte n'est pas faite puis que le chemin est remis à la municipalité, il y a des holdbacks sur tous ces investissements-là sur chaque propriété. Donc, tu sais, souvent les gens disent « Ah, le gouvernement de Doug Ford, c'est l'ami des promoteurs. » Bien, on peut pas s'afforder d'être l'ennemi des promoteurs parce que c'est eux qui font en sorte qu'on a une croissance. Parce que si on n'aurait pas eux qui sont prêts à investir puis mettre leur... c'est un gros gamble. Tu sais, ton projet, là,
c'est risqué,
de 100 maisons, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que les taux d'intérêt vont monter? Est-ce que tu vas le compléter?
C'est
dans
très risqué. Puis donc, des fois, la ligne est mince, surtout dans des promoteurs, disons, de moyenne envergure. Puis t'envoies une fois de temps en temps où ça fonctionne juste plus. Puis bon.
Absolument.
Mais non, c'est ça. C'est des gros risques financiers pour quelqu'un, là.
Qu'est-ce
de devancer toutes ces sommes-là.
Qu'est-ce qu'on remarque, là? Qu'est-ce qui est vraiment le fun? Je regardais, tu sais, tantôt, on parlait de la municipalité de Clarence Rockland. Quand tu as des promoteurs locaux, puis là, je donne un exemple, tu sais, il y avait M. Potvin, qui était comme un résident de Rockland, qui est un développeur, sa famille sont encore là. Fait qu'eux, ils ont intérêt à voir des développements qui sont bien faits, avec des beaux parcs, des pistes cyclables, tandis que des fois, quand t'as un développeur de Toronto qui arrive ici à Castleman puis se dit « Moi, je veux juste développer pour faire de l'argent », c'est moins bien réfléchi sur la façon, l'aspect communautaire. Donc, on est chanceux d'avoir des développeurs locaux qui ont à cœur ces projets-là. Je regarde Clarence Rockland, je regarde les nouveaux projets en arrière, parce qu'il y a des beaux parcs, des pistes cyclables, c'est tout était bien réfléchi. C'est pas souvent juste le travail des urbanistes de la municipalité, c'est le travail de ces promoteurs-là qui ont à cœur leur communauté.
Non, puis il y a un mot que tu as dit, on peut pas se permettre d'être l'ennemi des contracteurs et des promoteurs immobiliers, mais la réalité est la suivante aussi, c'est que la SCHL, du côté fédéral, sonne l'alarme depuis déjà 2 ans maintenant sur le manque criant de logements qu'on a au pays. Un manque à gagner qui est énorme, puis plusieurs regardent ça puis disent « Bon, on ne viendra jamais à bout de construire tout ça dans cette période de temps-là. » T'as ce point-là. Après ça, tu as l'augmentation, ce qui amène, d'ailleurs, c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste ça, mais ça amène une augmentation fulgurante des prix de l'immobilier, prix des terrains, puis du prix des maisons qui sont pas nécessairement alignées au salaire des gens. Tu vois, du côté américain, tu as juste à traverser le pont entre Cornwall et tu t'en vas à Messina et ta maison est... un tiers du prix de ce que tu paierais pour la même maison à Cornwall, malgré le taux de change que tu fais. On a fait l'exercice l'autre fois en onde ici. Tu sais, t'as tout cet aspect-là, ça amène des prix à la hausse qui sont souvent insoutenables pour la classe moyenne. Puis après ça, ben ça amène aussi des prix de loyer. Donc, ceux qui ne peuvent pas s'acheter une maison, qui font le choix de ne pas s'acheter une maison, mais qui ont des loyers à 2000, 2500, 3000, 3500, puis 4000 piastres par mois pour louer quelque chose, une maison est semi-townhouse. Mais townhouse, c'est 3000 piastres par mois de location. Là.
C'est puis une
c'est
chose
tout,
que,
tout est lié ensemble.
Ouais. Une chose qu'on entend souvent du côté autant de notre ministre des Affaires municipales et du logement, puis autant de notre premier ministre Doug Ford, c'est... On voit que les jeunes familles, tu sais, le rêve d'être propriétaire d'une maison, on dirait que c'est plus en plus difficile. Tu sais, on le disait, une maison, moi, j'étais maire d'Alfred Plantagenet, une maison dans Wendover, il y a 10 ans, qui valait 350 000, 400 000. Aujourd'hui, c'est 650 000. Mais je sais pas, les jeunes familles, à l'âge entre 20 et 30 ans, se ramasser 100 000 $ pour un down payment, je vais dire, c'est pratiquement impensable. Je comprends que les gens ils ont des bons emplois, sont deux, ils ont deux véhicules, les enfants font beaucoup de toutes sortes d'événements, ça coûte cher aujourd'hui. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est justement faire en sorte que avec qu'il y ait plus d'offres pour que justement les prix ça soit plus abordable pour nos jeunes familles, puis pas juste les jeunes familles, pour tout le monde. Puis je pense qu'on voit souvent, tu sais, des personnes âgées qui sont seules, qui restent dans une maison de 2000 pieds carrés, ben c'est de créer des logements aussi pour eux, que ça serait bénéfique de s'en aller là pour laisser la place à ces jeunes familles-là dans ces maisons. Fait que c'est toute une belle...
C'est tout relié.
Toute une belle chimie, tout ça. Ouais,
c'est très, très complexe. Là. C'est un sujet qui est super complexe. Lose Control, c'est Teddy Swims, puis on revient avec Stéphane Sarrazin pour encore quelques minutes. Je vous souhaite un bon jeudi, l'Est ontarien. On est le 22 août.
Let's go!
À Go FM!
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Go! Go!
7h56, on est jeudi, aujourd'hui nous sommes le 22 août. Encore quelques minutes à passer avec le député provincial de Glengarry Prescott Russell, M. Sarrazin. Jaser rapidement parce que, écoute, je sais que c'est un processus qui est en avant de la cour, puis je ne sais pas à quel point tu peux en parler ou non, mais toute cette histoire d'autobus, là, parce qu'il y a des parents qui sont pas de bonne humeur, on comprend, ça a commencé, c'est pas d'hier, là, ça a commencé il y a de cela quelques mois déjà. Tous ces nouveaux trajets d'autobus qui avaient été annoncés, à mon souvenir, je pense que c'était en juin, par le conseil, par le consortium, en fait. Puis les parents n'étaient vraiment pas de bonne humeur. Comment est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Est-ce qu'on est encore au statu quo de 1, de 2? On a vu cette semaine les conseils scolaires de la région, le CEPO puis le CSDCO, se mettre avec d'autres conseils scolaires pour poursuivre la province. On parle d'une iniquité entre les francophones et les anglophones au niveau du financement des autobus scolaires. Ta réaction sur ce dossier?
Bien, je pense que, premièrement, le budget pour le transport scolaire est le même à travers la province. C'est par étudiant. Puis que tu sois dans une région francophone, que tu sois dans une région anglophone, je pense pas que l'aspect... francophone puis anglophone dans tout ça, OK? Parce que, oui, je comprends, nous, on est une région francophone, on est une région très vaste, tu sais, mais si on se compare à Thunder Bay, puis ces endroits-là, on est quand même pas si grand que ça comme territoire, tu sais, on n'est pas le plus grand territoire rural de l'Ontario, puis qu'est-ce que je dois dire? Puis écoute, j'ai rencontré les membres des conseils scolaires, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai tout accumulé ces réponses-là, puis j'ai transféré ça justement au ministre de l'Éducation, au bureau du ministère de l'Éducation, parce que le ministère de l'Éducation me dit donné une augmentation de 4,4% cette année dans le transport scolaire, pourquoi que tout d'un coup, ça fonctionne plus? Donc là... on a posé des questions à des gens qui sont sur le consortium. Ça reste à déterminer. Premièrement, en fin de ligne, le choix de dire tel élève va se rendre à l'école à pied ou en autobus ne revient pas à la province, revient au conseil scolaire. Donc, si il n'y a pas de trottoir dans une certaine rue puis c'est jugé que c'est dangereux, ben c'est pas parce qu'il reste à 2 kilomètres de là qu'il devra marcher. Toutes les décisions finales sont prises par le consortium. Maintenant, est-ce que... Puis avec les questions que j'ai posées là, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est bien managé, le consortium? Parce que si tu regardes le nombre d'autobus jaunes qu'il y a sur la route versus les minivans grises qu'il y a sur la route, c'est sûr que si on charrie tous les élèves à l'école en minivan grise, ça n'arrivera pas avec notre budget. Parce que là, souvent, t'as des enfants qui ont besoin des services différents. Puis on regarde ça, t'as comme souvent un chauffeur avec un adjoint qui supervise les jeunes. Mais est-ce que cet adjoint-là pourrait pas être dans un autobus jaune puis que ce même élève-là qui a besoin des pour être quand même supervisé. Il y a plein de questions à se poser, puis j'aurais aimé ça, avoir des réponses claires du ministère et du consortium. Puis on continue à travailler là-dessus. Je sais que on n'a pas eu la chance de vraiment régler ça, parce que les conseils scolaires, eux autres, ils font tout simplement dire « Ah, on a un manque à gagner de temps, puis ça nous prend ça, puis on veut que la province paye ça. » En même temps, je parle à beaucoup d'autres personnes qui représentent les milieux ruraux de l'Ontario, mes députés, tu sais, nous, on est 124 députés, puis on se dit pourquoi que c'est dans ma région à moi que je n'entends parler le plus, puis que les gens sont tu sais, est-ce que c'est le consortium qui est la façon qu'ils gèrent ça? Puis c'est quelque chose à regarder, tu sais, à savoir.
Donc, re-questionner la façon, le modèle actuel.
Puis c'est toujours d'essayer d'aller plus loin qu'on peut avec l'argent qu'on a dans le transport scolaire. Je me rappelle pas du montant exact, mais c'est tant de 1000 $ par étudiant. Puis c'est ça que c'est. Puis aujourd'hui, on le sait, on a des étudiants. Il y a un petit peu une compétition à l'intérieur des conseils scolaires. Il y a des étudiants qui vont partir d'un village pour aller dans une école d'un autre village parce qu'ils veulent aller à l'école publique, puis d'autres ben parce qu'ils veulent aller à l'école catholique. Puis,
ouais.
Donc ça aussi, ça c'est difficile. T'sais. Donc c'est de bien analyser ça. Puis écoute, j'ai eu des belles réponses. On a rencontré les gens qui siègent sur le consortium, puis des justement les conseils d'administration, les conseils scolaires. Puis de là, on va essayer de travailler avec le ministère à dire, OK, parce que c'est sûr qu'en fin de ligne, là, la priorité pour moi, puis je pense qu'il est la même, mon gouvernement, c'est la sécurité des enfants. On laissera pas, puis on veut pas que le conseil scolaire laisse un enfant marcher où il n'y a pas de trottoir l'hiver dans la rue. Puis,
traverser la 17 à quatre voies à Plantagenet, oui, oui.
Absolument pas. Puis, tu sais, un exemple, souvent, tu as des écoles secondaires, justement, comme celle-là de Plantagenet, qu'on ait augmenté d'1,6 km la zone, ben écoute, il n'y a pas personne à l'intérieur d'1,6 km, puis il ne marchera pas sa 17 pour aller à l'école. Puis même, les jeunes vont sortir le midi, puis vont marcher sa 17 pour aller au dépanneur à Plantagenet. Ouais. Mais en tout cas, c'est complexe comme chose. Moi, je continue à pousser notre gouvernement à dire, hey, écoute, on a besoin de plus de financement, mais en même temps, faut toujours leur prouver là, pourquoi qu'on a besoin. Pourquoi que cette année, on a donné plus de financement puis ça marche plus. Là, c'est ça qui est la question qu'on se pose.
Vous retournez quand à Queen's Park? Il me semble que c'est dans longtemps.
Oui, on retourne juste en octobre.
Juste en octobre.
Absolument,
okay.
Absolument. Faut dire que même si on retourne juste en octobre,
oui, oui, non.
On a des comités, oui. On a des conférences, on a des consultations publiques. On a des gens là, qui sont sur des comités à Toronto qui n'ont jamais arrêté de siéger de l'année sur ces comités-là. Puis moi j'ai un comité en tant que tel qui est le comité des... c'est un peu tout ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement. Puis là, on parle des rénovations à Queen's Park. Puis c'est un sujet qu'on va peut-être parler encore dans 2 ans. C'est tellement des gros projets. Mais on rencontre aussi des gens. Moi, je suis à Toronto. Tu sais, depuis que je suis revenu dans la circonscription, ben, j'ai passé quand même, je ne sais pas combien de jours à Toronto, à rencontrer des organisations, des gens-là. Donc, on peut pas dire qu'on n'est pas là. Mais oui, on n'est pas en chambre. Chambre,
non, vous n'êtes pas en chambre, mais donc on va avoir la chance de se reparler avant la rentrée de parlementaire. Ça, c'est une bonne chose. On pourrait finir là-dessus. Quand est-ce qu'on tombe en élection?
C'est une bonne question. On entend des rumeurs.
Ouais, encore, voyons, ouais. Cibole, on est à la mi-mandat, là.
Ouais. C'est toujours des rumeurs. Hein, puis souvent, les rumeurs... se concrétise des fois, là, tu sais, des fois, ça devient réalité.
Ouais.
Est-ce que le gouvernement de l'Ontario, est-ce que Doug Ford puis notre équipe se dit, on serait peut-être mieux d'aller en élection avant que le fédéral aille en élection? Puis la raison pour ça, c'est que les gens sont très mêlés quand que ça vient. Moi, je me rappelle en 2022, je cognais aux portes, puis je disais, bonjour, je suis Stéphane Sarrazin, je me présente aux élections pour être votre député provincial. Là, j'avais certaines personnes qui me disaient, ah, oh, good, on va sacrer Trudeau droit, mais c'est parce que...
T'es pas à bonne place.
C'est le provincial.
Je le voyais là, venir, en plus.
Puis, ouais. Puis c'est deux bords, là, tu sais. Ouais, ouais. J'avais des commentaires sur le chef du parti.
Sur Pierre Poilievre, bon, oui, c'est le fun, mais c'est parce que nous, c'est Doug Ford.
C'est ça. Nous, c'est la province, on n'a rien à faire avec le fédéral. Fait que peut-être que c'est la stratégie d'aller en élection avant pour justement pour pas que les gens s'aient
trop mêlés là-dedans. Là. OK, je peux voir, je peux voir.
C'est bon, je te dis mon
fait que là, moi, si je regarde dans ton garage, il n'y a pas des pancartes de stationner là déjà. Là.
Non, okay. On est loin de là. Puis,
on va envoyer Élise à regarder.
Si tu me demandes si ça me tente d'aller en élection.
Pas vraiment.
Ça me tente pas pantoute parce okay. qu'écoute,
c'est
ben oui, c'est cogné aux portes puis tout ça, tu sais, c'est... Moi j'aime beaucoup le concept qu'on est ici à des événements, on jase avec les gens. Mais j'ai vraiment pas hâte à retourner cogner aux portes. Pas parce que c'est pas le fun. C'est parce que t'arrives à la maison le soir et t'es plus capable de marcher parce que
c'est
des longues journées.
Mais c'est pas juste ça, c'est qu'ultimement, c'est que l'énergie que t'es prêt à cogner à des portes, c'est parce que t'aurais pu faire avancer des dossiers. Là.
Exactement.
C'est un peu ça que c'est.
En milieu de mandat, là.
Ouais, mais c'est ça, tu sais. Les élections,
c'est 2 ans et demi.
Ouais.
Je sais pas, tu sais, quand est-ce qu'on parle rumeur d'élection, puis encore là, tu sais, on parle des élections fédérales, personne ne sait quand est-ce que ça va se faire, tu sais.
Ben, techniquement,
on peut aussi bien avoir une surprise, puis...
Il y a une date limite, si on la connaît, ouais, mais...
Qui est encore très loin.
Qui est, je pense, automne 2025, à mon souvenir.
Oui.
Quelque chose de même, hein?
Oui.
Ça, on approche, là.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ça s'en vient, mais...
C'est ça, on n'est pas encore rendu là, mais oui, c'est effectivement. Pas, ouais. OK, donc... C'est pas impossible, mais tes pancartes sont pas imprimées.
Non, je suis pas prêt pour ça.
Parfait. Stéphane Sarrazin, on sort jase avant ta rentrée en octobre.
Super.
T'es bien. Invité toujours, par grand merci d'être venu nous jaser comme ça. C'est pas facile. Toujours, pas de script, puis c'est des longues conversations. C'est pas 3 minutes, puis j'apprécie beaucoup
ben moi
que
aussi,
tu viens nous jaser comme ça, puis que tu te dévoiles comme ça. Et ce, sans attaché de presse et tout ça. Non, mais il y a des gens qui ne te laisseraient pas faire ça. Il y a des gens qui se laisseraient pas faire ça. Puis toi, ben, tu le fais. Puis j'apprécie beaucoup. Donc, je tenais à te le dire. Puis je te souhaite une excellente journée. Puis on te retrouve tantôt du côté de Cumberland pour ton espresso. Pour ceux qui voudraient peut-être poursuivre la conversation avec toi.
Absolument. J'ai hâte de rencontrer les gens.
Puis on te suit également sur les réseaux sociaux. Monsieur Sarrazin, on se rejoint bientôt.
Super. Merci.